Mon âme bénit le Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. C'est lui qui guérit toutes mes infirmités. C'est lui qui arrache ma vie à la tombe. C'est lui qui me couronne de bonté et de miséricorde. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Nous écoutons maintenant la lecture prévue dans la liste de lecture aux catholiques et protestants dans Ésaïe chapitre 60. Les 10 premiers versets.
Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples, mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Regarde bien autour de toi et vois tous tes enfants. Ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin. On ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur. Tu en es tout ému. Ton cœur éclate de joie. Car les richesses de la mer arrivent chez toi, les trésors des nations affluent jusqu'à toi. Ton pays se couvre d'une foule de chameaux. Ce sont les caravanes de Madian et d'Épha, arrivant toutes de Saba. Elles apportent de l'or et de l'encens, et se feront les messagers des louanges du Seigneur.
Il y a un verbe qui n'apparaît pas dans la traduction, mais qui est vraiment extraordinaire. Donc, c'est le verbe. Je cherche le verset. Au verset 5. Alors, tu verras, tu rayonneras, et il aura peur. Et il s'élargira ton cœur. Il y a une telle joie qui est promise ici que ça fait peur à Jérusalem. Cette peur va dilater son cœur. Une très grande joie. Nous allons voir ça aussi dans l'évangile de ce jour. Une très très grande joie. Et qui est tellement grande qu'elle fait peur. Mais ça permet de dilater le cœur. Alors on va chanter ce texte. Allez. Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 18.
Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux. Et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant, puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir. » Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit et se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode se rendit compte que les savants l'avaient trompé, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de moins de 2 ans. Cette limite d'âge correspondait aux indications que les savants lui avaient données. Alors se réalisa ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une plainte à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée car ils sont morts.
Ce texte est d'une grande simplicité, mais cette simplicité cache beaucoup de questions et surtout de profondes vérités. Il s'agit ici de l'épiphanie, terme grec, qui veut dire donc manifestation, épiphanie, manifestation. Dès sa naissance, Jésus a été manifesté aux nations, c'est-à-dire aux nations qui ne sont pas Israël. Des mages sont venus probablement donc de la Perse, une région, en tout cas à l'Orient, où il y avait depuis 6 siècles de grandes communautés juives. À Bagdad, il y en avait une jusqu'à Saddam Hussein, jusqu'au début du XXe siècle.
Ces mages, qui sont conseillers politiques dans leur pays, astrologues, sont les représentants d'une nation autre que Israël. Une nation qui est venue adorer à travers eux le roi des Juifs. Ces mages connaissaient l'attente messianique juive. Comme je l'ai dit, les Juifs existaient dans leur pays. Il y avait des communautés où on pouvait entendre parler de l'attente du Messie. Et eux, ils ont eu un signe. Mais seulement un signe, une étoile. Et quand Dieu nous donne un signe, c'est pour que nous nous mettions en marche, pour que nous commencions à marcher. La nourriture ne nous tombe pas toute cuite dans la bouche. Même la Sainte Cène, il y a eu des mains pour la préparer. Qui d'entre nous n'a pas eu de signe de la part du Seigneur? Et dans ce cas, est-ce que nous nous sommes mis en route? Est-ce que nous avons commencé à chercher celui qui est venu nous chercher? Thérèse d'Avila a dit une très belle phrase au moment de mourir. Il est temps de marcher. Oui, il est temps de marcher parce que Jésus vient. On peut marcher avec lui, même dans un lit de souffrance. On peut marcher avec lui, même si on est juste capable de sortir du lit et de se mettre dans un fauteuil. Parce qu'il est toujours celui qui vient et qui nous dit une seule chose, « Suis-moi ». Et cet appel nous fait nous lever pour nous mettre en route vers ce royaume dont il est le roi. Et sur ce chemin, nous trouvons à nos côtés tant d'autres marcheurs que nous considérions comme des ancêtres morts et enterré, Abraham, Isaac, Jacob, David, Ésaïe, Jérémie, Job, Mariam, Joseph et tant d'autres. Ces marcheurs sont discrets. Il n'existe pas de mausolée pour eux sur cette terre, ou de bibliothèque nationale à leur nom, ou d'arc de triomphe en leur honneur. Leur triomphe est dans le ciel, dans la nouvelle Jérusalem vers laquelle nous nous sommes mis en route. Frères et sœurs, si vous vous êtes arrêtés, il est temps de marcher maintenant. Considérez ce que ces mages ont traversé, des milliers de kilomètres. Ils n'ont pas regardé à la dépense. Ils sont venus à Jérusalem. Ils ont consulté là les érudits du peuple juif. Puis, ils ne se sont pas laissés scandaliser par l'incognito de cet enfant et de sa mère Mariam, qu'ils ont trouvé, dit le texte, dans une maison. C'est bien marqué là dans ce texte, une maison. Non pas une grotte, une étable comme on imagine. Ils ne se sont pas laissés scandaliser par le caractère ordinaire de cet enfant qui leur a été révélé étant le roi des Juifs qui vient de naître. Parce qu'ils se sont laissés enseigner par Dieu qui ne regarde pas à ce qui frappe les yeux des êtres humains. Et Dieu mène toutes choses selon sa volonté et son projet. Et s'il agit pour nous comme un fou, eh bien la folie de Dieu est bien plus sage que toute la sagesse du monde réunie. S'il paraît pour nous faible en étant comme ça enfant, eh bien la faiblesse de Dieu dans cet enfant est bien plus forte que toute la puissance des nations, avec leurs bombes atomiques, chimiques, leurs tanks, leurs drones, leurs missiles, leur terrorisme et surtout leurs mensonges incessants. Les mensonges d'Hérode, qui disait vouloir adorer lui aussi le roi des Juifs. Ces mensonges ont été contournés par la sagesse de Dieu. Une fois de plus, le peuple juif en a fait les frais. Les enfants juifs de Bethléem ont été massacrés. Rachel est inconsolable. Et les sages des nations, notre propre intelligence incrédule, pourrait se rebeller contre une telle sagesse. Était-ce bien nécessaire, cette naissance du roi des Juifs, s'il fallait que les mères juives soient inconsolables encore et encore? La Shoah, ça ne suffit pas. Il faut encore aujourd'hui qu'une mère juive voit son enfant brûler sous ses yeux. Cela s'est passé il y a quelques jours en Israël. Voilà tout ce à quoi aboutit l'intelligence humaine quand on lit l'Évangile avec notre intelligence. Ces textes viennent renforcer alors notre incrédulité. Et bien qu'ils la renforcent, les mages, eux, si intelligents dans leur pays, au point d'être devenus conseillers du gouvernement, on nous le dit dans le texte, j'ai vérifié vraiment en grec, ils sont tombés avant d'entrer dans la maison où étaient l'enfant et Mariam, sa mère. D'abord, ils ont éprouvé une très grande joie à la vue de l'étoile qui était réapparue. Ils ont été saisis d'une très grande joie, la joie qui vous tombe dessus sans que vous compreniez d'où elle vient, alors que tout autour de vous respire la tristesse et la violence. Vous connaissez cela? Les croyants connaissent cela. C'est la joie qui vient d'en haut, celle que les prophètes ont annoncée à Jérusalem dans le deuil inconsolable. Le Seigneur Dieu a dit à Jérusalem, « Je transformerai ton deuil en allégresse. » Donc les mages ont été ivres de joie en entrant dans la maison où était le petit enfant Jésus avec Mariam, sa mère. Et là, une fois entrés, ils sont tombés. Ils sont tombés, vous entendez? Ils sont tombés. Ces hommes ivres de joie sont tombés devant un enfant et l'ont adoré. Ils ont adoré un enfant comme étant Dieu lui-même. Un enfant qui n'avait encore rien fait, ni rien dit. Ils se sont mis entièrement à sa disposition. Ils l'ont adoré comme on n'adore que Dieu. Voilà ce que nous dit l'Évangile. Et vous voudriez que devant un tel récit, nous restions de marbre? Qui veut aujourd'hui se mettre en marche, venir adorer l'enfant Jésus? Qui a peur? Peut-on avoir peur d'un enfant? Oui, chers amis, c'est ce que nous dit le texte. Hérode a peur. Terriblement peur. Il a peur. Peur d'un enfant. Alors il tue. Encore aujourd'hui, on ne cesse
d'exhumer les vestiges des splendides palais, des forteresses construites par Hérode le Grand. On fouille toujours les murs de l'esplanade du temple. On se demande comment il a pu faire de si grands ouvrages. Jésus, lui, n'a fait aucun ouvrage sur lequel devraient s'acharner aujourd'hui les archéologues. Son ouvrage, c'est nous. Le temple qu'il construit, c'est nous. Adorer Jésus nous fait peur. Sommes-nous dans la mentalité d'Hérode, roi des Juifs selon ce monde, ou sommes-nous dans la mentalité des mages qui ont adoré Jésus, enfant? Pourquoi reculons-nous si souvent lorsqu'il s'agit de donner notre vie entière à Jésus? Parce que nous l'imaginons comme un tyran qui nous exploiterait jusqu'au bout et qui nous enlèverait notre liberté, notre identité. Est-ce que l'enfant Jésus a enlevé leur identité aux mages? Est-ce qu'il leur a demandé de devenir juifs? Est-ce qu'il leur a interdit de rentrer chez eux, dans leur pays, leur famille? Rien de tout cela. Les mages sont rentrés chez eux, avec Jésus dans leur cœur, avec la vie du royaume de Dieu, le Saint-Esprit, ce même Saint-Esprit qui a fait naître cet enfant dans la Vierge Marie. Ils ont été transformés par Jésus. Ils ont vu la gloire de Dieu comme ils ne l'avaient encore jamais vue et comme ils ne l'auraient jamais imaginée. Indirectement, ils ont provoqué un massacre dans le peuple juif. Et c'est toujours comme cela aujourd'hui. Le peuple juif serait tombé dans l'oubli si dans toutes les nations, il n'y avait pas d'authentiques croyants qui adorent Jésus, le roi des Juifs, comme étant la parole éternelle de Dieu. La parole qui est Dieu lui-même et qui est devenu être humain dans la Vierge Marie, sauvant ainsi tous les êtres humains. Mais dans toutes les nations, il y a aussi les faux croyants jusqu'au cœur des églises qui, comme Hérode, disent vouloir adorer Jésus, mais ne le feront surtout pas. Hérode avait acquis du Sénat romain le droit de se faire appeler roi des Juifs. Et nous sommes souvent, comme lui, cherchant l'appui des pouvoirs de ce monde pour notre religion, par laquelle nous voulons nous glorifier nous-mêmes. Laissons tout cela, venons adorer Jésus dans le secret de nos chambres. Il est là. Offrons-lui notre or, notre encens et notre myrrhe. Notre or, nous lui reconnaissons la royauté sur qui nous sommes, sur nos biens. Notre encens, nous lui reconnaissons que lui seul peut nous apprendre la prière. Nous comptons sur sa prière à lui seul pour nous sauver, car souvent notre prière est défaillante. Notre myrrhe, nous voulons embaumer le corps de Jésus crucifié, venir toujours à nouveau à sa tombe qui est ouverte parce qu'il est ressuscité. Mais c'est là, dans cette tombe vide, qu'une substitution a été faite par Dieu, notre Père. Il nous a donné la vie en son Fils, crucifié et enterré. Et il nous a ressuscité
en ressuscitant son Fils. Nous n'oublierons jamais ce que Jésus a fait pour nous. Nous n'oublierons jamais qu'il est mort et ressuscité pour nous. Et nous répondrons toujours à notre incrédulité lorsqu'elle voudra encore nous faire lâcher prise sous prétexte que tout cela coûte beaucoup trop de souffrance. Nous répondrons non, cela valait la peine que Jésus naisse et que les nations viennent l'adorer, même si les Hérode continuaient à tuer les enfants juifs. Non, ça valait la peine que naisse celui qui a tué la mort une fois pour toutes. Ça valait la peine que naisse le vainqueur de la mort, pendant que les Hérode de notre temps continuent à faire ce qu'ils savent si bien faire, tuer les êtres humains. Nous continuons à leur annoncer, vous ne pourrez pas tuer celui qui a tué la mort. Nous l'avons adoré et nous continuerons à le faire. Amen.